Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, Emmanuel Macron est-il l'homme de la situation ? On le disait mou, une mollesse quasi congénitale avec pour corollaire un penchant pour l'indécision. Il aura fallu attendre les attentats de 2015 pour qu'on concède enfin à François Hollande qu'il occupait pleinement désormais la fonction de chef de l'État. Avec Emmanuel Macron, c'est comme si le phénomène inverse était à l'œuvre. Sa première crise importante, celle des Gilets jaunes, bouleverse la geste macronienne. L'homme de la rupture, qui promettait de maintenir le cap des réformes coûte que coûte à travers un exercice du pouvoir tout en verticalité, semble aujourd'hui submergé par les événements. Emmanuel Macron a été conspué hier au Puy-en-Velay. C'est son nom qui est tagué par les manifestants pour l'appeler à démissionner. Lui qui avait fait de la restauration de l'autorité du président de la République un des axes de son mandat se voit mis en échec sur ce sujet. Or, un tel retournement est spectaculaire. Il va sans doute conditionner la suite du quinquennat. Comment gouverner? Comment réformer désormais? Emmanuel Macron est-il l'homme de la situation? Et pour en discuter ce soir, trois journalistes qui ont chacun consacré un ouvrage à Emmanuel Macron. Ça a été notamment votre cas, Marc Andevel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez d'ailleurs été un des premiers à dégainer sur ce personnage, puisque votre ambigu Monsieur Macron date de 2015. Vous l'aviez publié chez Flammarion. Il y a eu une mise à jour depuis qui date...
Une mise à jour avec six chapitres supplémentaires, début janvier 2018.
Voilà, puisqu'entre 2015 et 2018, il n'a échappé à personne qu'il s'est passé un certain nombre de choses pour Emmanuel Macron. J'ai pas précisé, vous êtes journaliste indépendant après avoir été grand reporter à Marianne. Pour discuter avec vous, elle aussi est grand reporter au Figaro. Anne Fulda, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes par ailleurs responsable de la rubrique Portrait. Vous, votre ouvrage consacré à Emmanuel Macron, il date d'avril 2017. C'était chez Plon. C'était donc quelques jours avant son élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait. Je vois que vous avez la version poche. C'est chez... J'ai lu. C'est ça. Et puis, troisième invité, Jean-Dominique Mercher. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à l'Opinion. Vous êtes spécialiste des questions de défense, hein, notamment. Et vous avez publié, vous, c'était en octobre 2017. Donc, là, il était à l'Élysée, hein, Macron Bonaparte. Macron Bonaparte, publié chez Stock. Macron Bonaparte ou Macron Louis XVI, d'ailleurs, aujourd'hui, vu ce qui s'est passé hier soir.
Napoléon finit mal, quand même, aussi. Hein, je veux dire, je rappelle, il y a Waterloo, il y a Sainte-Hélène, donc bon, c'est pas forcément une comparaison. Ça n'a d'ailleurs jamais été une comparaison totalement élogieuse, hein, ma vision de ma comparaison avec Bonaparte.
Si je vous dis Louis XVI, c'est aussi parce que moi je trouve qu'il y a une scène qui me semble assez stupéfiante hier. Donc Emmanuel Macron se rend à la préfecture du Puy-en-Velay, préfecture qui a été incendiée par des manifestants durant le week-end. Il sort, à un moment donné, il baisse un petit peu la vitre pour parler à des manifestants qui sont là. Et voilà ce qu'on entend. Voilà, on a presque l'impression d'une reconstitution dans un mauvais film de la fuite de Varennes. Je ne sais pas, est-ce que c'est une image qui a pu vous apparaître à la faveur de cette séquence, Anne Fulda?
Oui, c'est d'autant plus frappant qu'il a lui-même théorisé sur le sujet lors d'une interview dont on avait beaucoup parlé à l'époque au 1, où il avait théorisé sur la figure du roi qui reste comme une absence dans la politique française, où il disait il y a eu deux moments où finalement elle semble avoir été remplacée, c'était lorsqu'il y a eu le général de Gaulle puis François Mitterrand, et c'est assez frappant parce que effectivement il y a une tradition monarchique en France, de même malgré la 5e République, on l'a beaucoup répété.
Il disait même que les Français s'étaient jamais vraiment remis de cette disparition.
Il disait que les Français s'en étaient pas remis. Donc il a voulu prendre ce rôle un peu de roi. Il l'a assumé en oubliant qu'effectivement l'autre versant c'est le côté révolutionnaire. C'est que les Français ont aussi coupé la tête du roi. Ce que répète souvent un autre président, c'est Nicolas Sarkozy.
Voilà, quand on veut être un Bonaparte, il faut pas oublier qu'il y a Waterloo puis qu'il y a Sainte-Hélène. Quand on veut être le roi, il faut pas oublier qu'il y a la fuite à Varennes. Et puis bon, évidemment, on va pas aller peut-être jusqu'aux conditions dans lesquelles Louis XVI a été guillotiné. Enfin bon, forcément. On pense à ce genre de symbole. Marc Andevel,
Moi, je vais revenir au titre de votre émission. Est-il l'homme de la situation ? En fait, il est à la fois le produit de la situation, parce que Macron a été élu du fait, on va dire, d'un écrasement politique, d'un assèchement de la concurrence en 2017 avec des partis politiques dans les limbes et des situations particulières. Et par ailleurs, Macron a totalement utilisé cette situation politique, voire la renforcer, voire la hystériser. Et donc, il est totalement producteur de la situation pour moi. De ces derniers jours, on parle de l'absence des corps intermédiaires. Et là, aujourd'hui, c'est quelle ironie. On voit le porte-parole du gouvernement faire état de l'allocution présidentielle au Conseil des ministres ce matin, qui demande de l'aide aux corps intermédiaires. Corps intermédiaires qui n'a cessé, depuis son élection, de mépriser, de mettre de côté, de réduire à néant, d'une certaine manière. Et d'une certaine manière, je l'avais senti, moi, assez tôt pour avoir effectivement écrit le premier livre, mais également pour l'avoir suivi pendant la campagne présidentielle. On en reviendra dans la discussion, mais j'ai très tôt senti qu'il n'était pas particulièrement libéral, en réalité, sur le plan politique, Macron. Il a une composante particulièrement autoritaire, en réalité, dans son rapport au gouvernement et au pouvoir, et même par rapport à la démocratie. Il y a une anecdote, pour commencer. Un grand patron que j'avais rencontré donc dans mes multiples rencontres pour le livre m'avait dit cette chose suivante qui était quand même très frappante. Il m'avait dit, vous savez, Macron, il a un rapport quand même relativement inégalitaire à la société. C'est-à-dire que il considère qu'il y a la classe des sachants, la classe des gens qui ont réussi leurs études, qui ont leur diplôme et qui donc ont la mission de décider. Et puis il y a les autres, il y a les sujets, ceux qui doivent obtempérer aux décisions. Et c'est cette grille de lecture à la fois politique et quasiment managériale, de considérer la France finalement comme une entreprise, qui là aujourd'hui arrive à l'impasse.
Jean-Dominique Mercier. Oui, ce que vient de dire Marc est très juste. Il y a une... On est dans un moment, même s'il faut ne pas avoir craint d'utiliser des mots un peu excessifs, on est quand même dans un moment où il y a une révolution politique. Une révolution dans la mesure où toute une génération, une classe politique est contestée. Emmanuel Macron est à la fois effectivement le moteur et le bénéficiaire de ça. Il a été, c'est-à-dire c'est en renversant ce qu'il appelait l'ancien monde qu'il arrive au pouvoir. Mais comme tout révolutionnaire, il pense qu'une fois qu'il est arrivé au pouvoir, la révolution va s'arrêter avec lui.
D'ailleurs, c'est l'illusion. Son livre programmatique s'appelait La Révolution.
Absolument. C'est l'illusion de tous les révolutionnaires dans toutes les révolutions de l'histoire. Quand un révolutionnaire arrive au pouvoir, il dit bon, bah, maintenant c'est fait, la révolution est terminée. C'est une phrase d'un empereur célèbre. La révolution est terminée et en réalité, le mouvement continue. Et ce qu'on voit, c'est depuis l'été, le mouvement de dégagisme, on l'a appelé, voilà, le dégagisme politique est reparti. Et évidemment, Emmanuel Macron sera emporté par ce mouvement dont il a été un des moteurs et un des accélérateurs et un des bénéficiaires. Mais cette séquence est en train de se terminer. Et donc, il y a eu, vous voyez, Danton, Robespierre, puis d'autres. Et bien, nous sommes dans un facteur, dans un moment comme ça, très certainement. Alors, évidemment, on ne coupe plus les têtes, mais ça fait mal quand même à ceux que ça arrive.
Est-ce que ça traduit un manque de lucidité chez Emmanuel Macron, à votre avis, Anne Kilda ? Est-ce que ça pourrait être en tout cas un de ses traits de caractère ?
C'est assez étonnant. Oui, je pense qu'il est... il pense toujours qu'il pourra avoir le dernier mot et que son esprit, son intelligence pourront... terrasser l'adversaire. C'est pour ça d'ailleurs que dans une première phase et pendant la campagne et après, on a vu que souvent il allait à l'affrontement avec ses opposants, ce qu'on voit un peu moins aujourd'hui. Mais à l'époque, il semblait même aimer ça et presque sûr de lui, enfin sûr qu'il emporterait la joute. Là, un petit peu moins. Mais c'est vrai que ce qui est quand même étonnant, c'est que il a fait un bon diagnostic de ce qu'il fallait faire. Il faut pas oublier. On a l'impression qu'en fait, c'est peut-être son deuxième corps qui prend le dessus. C'est-à-dire que je pense que ces travers un peu, même beaucoup autoritaires, on les sentait. Moi aussi, j'ai interrogé pas mal de ses proches qui disaient qu'il avait un côté autoritaire, narcissique, même quand il était en phase ascendante pendant la campagne. Donc ça se révèle. Et il y a eu quand même des... Il faut revenir à ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est-à-dire que il y a eu un décrochage clair avec, avec cette fameuse affaire Benalla. Parce que jusqu'alors, sa figure de chef semblait intacte, et même de façon assez étonnante. Il a bénéficié d'une bienveillance incroyable pendant quelques mois, et il a pu faire des réformes sans avoir aucune opposition, ou presque, parce que l'opposition politique était morte, et effectivement les corps intermédiaires, il les avait mis de côté. Donc il semblait pouvoir avancer sans aucune contradiction opposition.
C'est d'ailleurs dans le cadre de cette affaire Benalla, Anne Fulda, que Emmanuel Macron va avoir une de ces phrases dont on commence un petit peu à faire la liste et qu'on ressort aujourd'hui.
Venez
et qu'ils prennent, voilà.
Qu'ils viennent me chercher.
Quand on pense à cette phrase aujourd'hui,
oui,
elle prend quand même un sens très.
Ça révèle ce fameux hubris dont certains parlaient déjà pendant la campagne, c'est-à-dire cet orgueil démesuré qui explique qu'il soit arrivé où il est, mais qui explique aussi certaines de ses positions qui semblent assez incompréhensibles. Ce qui est étonnant, parce que c'est vrai qu'il avait fait les bons diagnostics pendant la campagne. Et par exemple, j'ai retrouvé dans une autre interview qu'il avait donnée au un diagnostic qu'il faisait sur la nécessaire mobilité, et surtout mobilité physique, qui est très importante pour les Français. Il avait tout diagnostiqué, et en fait, il a semblé oublier. Il disait d'ailleurs qu'il fallait réconcilier les deux France. Il a oublié ça, tout son discours de campagne. C'est pas le premier à le faire, mais enfin, il l'a vraiment oublié.
Alors, j'ai relevé un autre élément de diagnostic, mais qui rejoint finalement ce que vous dites. C'est c'est un article pour Esprit, pour la revue Esprit, qui date de 2011. Article qui est là aussi assez souvent cité. Article dans lequel il parle notamment d'un hiatus entre l'émergence des problèmes de long terme, complexes, structurels, parfois mondiaux, et des urgences économiques, sociales, démocratiques, dont le non-traitement immédiat est perçu comme insupportable par les opinions publiques. Parce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment on peut faire un diagnostic qui semble aussi pertinent et comment, une fois qu'on est au pouvoir, on a l'impression que il a oublié de tirer les conclusions de ce diagnostic. Marc Andevelde, ensuite Jean-Dominique Mercher.
Alors, cet article est intéressant parce que son titre s'appelle « Dans les labyrinthes de la vie politique ». Et c'est d'une certaine manière, c'est une autocritique du quinquennat Hollande, en partie. Et l'autre élément extrêmement intéressant, c'est que dans cet article-là, il critique l'hyper-présidentialisme à la française. C'est-à-dire, dans cet article d'Esprit, il s'adresse finalement au lecteur d'Esprit et il fait du rocard. Mais en réalité, Macron n'a jamais été rocardien ou uniquement rocardien. C'est d'où l'ambigu Monsieur Macron. C'est aussi ça ma découverte au départ. C'est-à-dire qu'il a été également influencé par des responsables politiques français, notamment Jean-Pierre Chevènement, qui a une grille de lecture beaucoup plus jacobine des institutions. Et donc, il est, depuis ce texte-là de 2011, il est en réalité revenu sur cette critique de l'hyperprésidentialisme, parce que comme l'a rappelé Anne, il en a même théorisé la nécessité de cet hyperprésidentialisme et de cette verticalité. Il parlait de verticalité aussi pendant la campagne, très tôt. Oui, et donc, quand je disais il a écrasé son opposition pendant la campagne, il expliquait qu'en gros, la vie politique française aujourd'hui, c'était trois personnes. C'était lui, Mélenchon et Le Pen.
Mais s'il est revenu sur cette critique de l'hyper-présidentialisme, Marc Andevelde, c'est quoi? C'est parce qu'il a compris que la stratégie pour conquérir le pouvoir et peut-être pour l'exercer d'ailleurs, derrière, ça passait forcément par l'hyper-présidentialisme et que le diagnostic qu'il avait fait auparavant ne lui permettait pas justement peut-être d'accéder au pouvoir.
Alors ça, c'est sa critique de Rocard. Moi, il me disait, les rocardiens et Rocard lui-même, hein, c'était sa critique, a toujours eu un rapport complexé à l'État. Ce qui n'était pas mon cas, me disait-il.
La preuve, Rocard n'a jamais été président.
Et Macron n'a jamais été complexé par rapport à l'État, voire il assume totalement de décider pour les autres, et sur les autres, et au-dessus des autres. Et donc, par ailleurs, il y a un autre élément. Parce que s'il fait le bon diagnostic, ça je suis d'accord, mais après sa politique est une politique d'adaptation de la France, on va dire, à la jungle de la globalisation. Il faut le dire à un moment donné. Et le problème, c'est qu'il n'avait pas la base sociale pour le faire. Et on en revient quand même à l'élection de 2017. Certes, il a la légitimité, mais quelle légitimité? La légitimité des insuffisances de la Ve République, où au second tour, on élimine un candidat plutôt qu'on le choisit. Et c'est ça le quiproquo de départ.
On peut dire d'ailleurs que n'importe lequel des autres candidats qui auraient été vainqueur aurait eu ce même problème de légitimité.
Fait, hein.
Jean-Dominique Mercher, est-ce qu'il y a un Macron politologue et un Macron politique? Est-ce que ce sont deux personnages
Vous me différent. Le retirez de la bouche.
Ah, c'est vrai?
C'est ce que j'allais dire. Vous avez d'un côté l'observateur qui fait un diagnostic sans doute assez lucide de la situation, puis après vous avez l'acteur. Et l'acteur politique, on découvre qu'il est assez médiocre, en réalité. Parce que effectivement, il a été dans il n'a pas su se doter des instruments pour gouverner un pays. Les instruments, c'est quoi? C'est il faut des troupes et des alliés puissants, des hommes sur lesquels on s'appuie. Et ça, il ne les a pas parce qu'il refuse de les avoir. En fait, on voit cette affaire c'est l'inexistence de son parti qui désigne. Excusez-moi, mais son nom même m'échappe. Monsieur Guérini, je crois, pour prendre sa direction. On voit bien que les rares personnes qu'il avait réussi à attirer auprès de lui, Colomb. Où Hulot sont partis, mais parce que c'est son mode de fonctionnement qui l'empêche d'avoir les instruments pour gouverner. Donc voilà, on pourrait dire que c'est un homme politique important me disait ça l'autre jour. Il me disait, voyez, Emmanuel Macron, c'est une plante qui a poussé en serre, protégée. Elle a poussé très droit, très vite, très bien. On l'a transplantée dans une forêt où il y a une tempête aujourd'hui parce que le vent souffle. Et là, on découvre quelque chose, c'est qu'il n'a pas de système de racines, de système racinaire pour tenir les choses.
Redites le nom de cette personnalité politique importante.
Ah non, je vous la dirai pas. Voilà, je vous la dirai pas. C'est quelqu'un qui aime. Quelqu'un qui aime les fleurs et les plantes. Voilà.
Bon, alors je vais chercher ça dans l'émission. Hein.
Non,
Anne Fulda.
Pour rebondir sur ce que disait Marc, je dirais qu'il faut effectivement se souvenir surtout des résultats du premier tour, c'est-à-dire qui sont très révélateurs. Il se retrouve, Emmanuel Macron, évidemment qu'il est élu avec une abstention extraordinaire. Un score relativement moyen, c'est pas le seul, mais surtout il y a deux partis extra-système qui font près de 50% des voix et qui exprimaient déjà un rejet du système, une colère énorme. Il a négligé, voire ignoré complètement ces deux partis, presque la moitié des suffrages exprimés, et ça c'est une faute politique grave parce que
est-ce qu'il les a ignorés ou est-ce qu'il en a pas fait justement ses principaux adversaires?
Enfin, il les a fait de façon, il en a fait ses principaux adversaires pour le théâtre, je dirais. Mais il n'a pas traité les électeurs. S'il n'a pas traité les problèmes qu'exprimaient ses électeurs, c'est là qu'est la faute. Parce que ça on l'a dit 40 000 fois, mais c'est vrai qu'il s'appuyait censément sur deux jambes et qu'il y a une jambe, celle sociale qu'on a franchement complètement pas oubliée, qui a pas été inexistante d'ailleurs. Il y a eu des maladresses, mais qui n'a pas du tout été mise en avant. Mais ça, le fait d'avoir négligé ces électeurs qui étaient pour la France insoumise et le Rassemblement national, c'est vraiment une faute. Parce que c'est le président de tous les Français. Et je pense que c'est une vraie faute politique.
Il y a forcément toujours dans un quinquennat et dans un phénomène comme celui qu'on essaie de comprendre ce soir, une progressivité. Mais est-ce que malgré tout, vous diriez qu'il y a quand même un tournant, un moment qu'on peut identifier comme le moment où Emmanuel Macron, qui est ce jeune homme brillant qui arrive au pouvoir, qui a conquis le pouvoir, qui renverse d'une certaine manière le système, qui va tenir le cap, lui, contrairement à ses prédécesseurs. Est-ce qu'il y a un moment qu'on peut identifier où là, ça bascule peut-être vers autre chose?
Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que l'affaire Benalla a été une rupture, mais parce que on a découvert une face du pouvoir que les Français ignoraient totalement. Et donc là, effectivement, mais bon, si les choses étaient rentrées dans l'ordre, mais je crois que nous sommes dans ce moment avec les gilets jaunes. C'est ce moment qui se passe. C'est là que maintenant, on découvre ou en tout cas on constate le niveau de haine qu'il y a dans une partie de la population contre le président. C'est assez inquiétant. Au-delà du choix politique de chacun, mais on sent qu'il y a quand même une vraie violence à son égard. Et je pense que dans les cercles du pouvoir, il y a aujourd'hui des sentiments de peur. Mais de peur, pas que politique. De peur sur leur avenir à court terme, à moyen terme. Je crois que le pouvoir a peur aujourd'hui. C'est jamais bon signe dans une démocratie d'en être là.
Marc Andevelde, il y aurait un après et un avant et un après affaire Benalla.
Ah bah, avec l'affaire Benalla, on voit que le pouvoir macronien est aussi très vieille politique, hein, avec avec on va dire les on va dire la face sombre de la Ve République, hein, qui est un régime où effectivement il faut utiliser toutes les cartes dans ses poches pour arriver à la plus haute fonction présidentielle, et donc d'une certaine manière la fin justifie les moyens. Et ça, c'est à la fois tout le cynisme de Macron et tout son culot, mais la fin a justifié les moyens.
Donc la bascule, vous la positionnez là aussi, vous ?
Ça, c'est une bascule dans l'opinion, et on l'a vu très clairement. C'est une bascule par rapport à la destruction de tout son récit auprès des Français et auprès des médias, c'est-à-dire moi je suis l'homme neuf, et en fait on s'est aperçu là que il y avait quand même beaucoup de choses très problématiques. Mais moi je dirais l'une des premières alertes, il y en a plusieurs, mais l'une des premières alertes par rapport à son hubris, c'est son voyage aux États-Unis avec Donald Trump. Et d'ailleurs la presse américaine, qui avait cru comme d'autres, y compris en France, que Emmanuel Macron était un Barack Obama ou un Justin Trudeau, c'est-à-dire un social-libéral, eh bien, la presse américaine, quand même, New York Times ou le Washington Post, est quand même tombée de haut, parce que, d'une certaine manière, les premiers éditoriaux les plus vengeurs, les plus critiques à l'égard d'Emmanuel Macron, proviennent souvent, et parfois, la presse anglo-saxonne et notamment américaine, parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout apprécié, finalement, j'allais dire, l'amateurisme, le caractère enfantin Emmanuel Macron dans son comportement à l'égard de Donald Trump. Et donc, au motif qu'il fallait discuter avec tout le monde, ce qui est normal, il a aussi oublié, là, d'une certaine manière, que la France était quand même qu'une seule, une petite puissance moyenne par rapport à une hyperpuissance américaine. Et là, d'une certaine manière, il a été confronté diplomatiquement à la réalité des choses. Et là, on voit qu'il y avait déjà, une manière très prégnante chez Emmanuel Macron de se raconter sa propre histoire. Voilà. Il adore parler de l'héroïsme. Il s'est cru le héros de son histoire. Et d'une certaine manière, ce qui s'est passé avec Trump sur le plan diplomatique est assez intéressant à cet égard.
Je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant à relever chez Emmanuel Macron, qui se dit très attentif aux verbes et aux mots. C'est justement, on parlait de violence il y a quelques instants, c'est la violence que lui-même peut avoir dans son expression. C'est assez étonnant, le verbe macronien. C'est-à-dire qu'il y a une alternance entre des mots presque cru, presque trivial. D'ailleurs, pendant la campagne, il avait parlé des illettrés. Là, il avait parlé, on peut dire que c'était maladroit, sorti du contexte, mais des gens qui ne sont rien, qui est une phrase d'une violence extrême. Récemment, le pognon de dingue qui avait été dépensé, qui en plus, c'est une formule qui avait été utilisée par les services de communication de l'Élysée. Donc,
c'était pas une phrase volée, hein, voilà. C'était vraiment.
Alors, cette alternance entre ces mots comme ça, cru, presque dur, et à côté de ça, un langage parfois ampoulé, précieux, d'un autre temps, comme lorsqu'il y a peu de temps, alors que déjà les gilets jaunes commençaient vraiment à gronder fort, il parle des classes laborieuses. Mais qui parle aujourd'hui des classes laborieuses? Enfin, c'est assez incroyable pour quelqu'un qui se veut tellement attentif aux mots, qui n'arrêtait pas de parler de cette phrase de Camus, bien nommer les choses et ne pas participer au... Non, c'est pas la bonne formule, exactement. Participer au malheur du monde, c'est pas la bonne formule, pardon, je m'en excuse.
Auditeurs rectifieront.
Oui.
Voilà. Et on va avoir des petits messages pour...
Enfin, je trouve qu'en tout cas, c'est quand même révélateur et de ce qu'il est, cette dualité.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Emmanuel Macron est-il l'homme de la situation? C'est la question que nous posons ce soir à Anne Fulda, journaliste au Figaro, Jean-Dominique Merche, journaliste à L'Opinion, et Marc Andevelde, journaliste indépendant. Vous avez tous les trois signé des ouvrages consacrés à Emmanuel Macron. Et avant de poursuivre la discussion, parce qu'on se demande finalement si Emmanuel Macron, on se pose la question de son exercice du pouvoir, et peut-être même aussi, est-ce qu'il était vraiment fait pour exercer les plus hautes fonctions, ce qui revient à se demander ce que c'est aussi qu'être un chef. Et bien justement, ce midi, dans l'émission La Grande Table d'Olivia Gesbert, était invité le général Pierre Devilliers. Pierre Devilliers, il a une histoire en partie commune avec Emmanuel Macron, puisque pour avoir contesté son autorité en critiquant le budget des armées, et il avait été désavoué par le tout jeune chef de l'État. Il vient de publier un livre aux éditions Fayard, Qu'est-ce qu'un chef? Voici un élément de réponse.
Un bon leader, c'est quelqu'un qui est capable d'entraîner derrière lui. Moi, quand je préparais une opération, quand j'étais plus jeune, je veillais à ce que derrière ça suive, parce que quand vous dites en avant, il faut que ça suive pour gagner. Eh bien, je crois que dans nos écoles de formation, de nos élites françaises, on n'apprend pas suffisamment à s'occuper des autres, à être tourné vers les autres, à entraîner les autres. Parce que c'est comme ça que ça se passe, in fine. Les yeux dans les yeux, on doit convaincre. Un chef, il y a plusieurs étapes. Il conçoit une manœuvre, un plan, une réforme. Ensuite, il doit convaincre. Cette deuxième étape, souvent, est trop occultée. Ensuite, il conduit la réforme et puis il contrôle. Parce que la confiance n'exclut pas le contrôle, évidemment. Mais cette étape de la conviction, de l'entraînement, de la capacité à guider les hommes et les femmes que l'on a l'honneur de diriger, elle est très importante.
Jean-Dominique Merchet, vous qui connaissez bien les affaires de défense et les hommes qui font vivre l'armée, ils pensent à qui, votre Pierre de Villiers, quand il dit voilà, il suffit pas de dire en avant.
Alors ben, manifestement, la vengeance est un plat qui se mange froid, mais de manière assez élégante quand même, j'ai trouvé. Évidemment, je veux dire, tout le monde pense à Emmanuel Macron, mais c'est vrai d'ailleurs que l'épisode entre le général de Villiers, donc vraiment recadré d'une manière tellement insupportable qu'il présente sa démission le 13 juillet 2017, dévoile peut-être pour la première fois un visage d'Emmanuel Macron auquel on ne s'attendait pas aussi vite et aussi brutalement. Moi, j'assiste à cette scène et effectivement, on est comme tous stupéfaits en disant mais il va pas bien quoi. Je veux dire, on fait pas des choses comme ça quoi. Et effectivement, donc, je crois que Pierre de Villiers, alors, on entend beaucoup de choses aujourd'hui, dans les gilets jaunes, il est une sorte de héros d'un certain nombre de gilets jaunes qui rêveraient d'un Pierre de Villiers. Tout ça est assez ridicule, mais effectivement...
Alors, on n'en a quand même pas au recours.
En plus, je pense que c'est... je sais qu'il n'est pas du tout dans cet état d'esprit, mais effectivement, là, c'était particulièrement bien senti.
Marc Andevelde.
Lors de l'épisode en juillet 2017, il dit... c'était quoi? C'est sur les vœux aux armées
le 14 juillet.
Il dit, il est obligé de dire... C'est moi le chef, oui. Quoi. Bon, c'est quand même... Là, quand je faisais le constat qu'il y avait un petit côté enfantin chez Emmanuel Macron, là, pour le coup, c'est assez significatif. Je voulais juste revenir sur les questions de faute politique d'Emmanuel Macron, parce que il n'y a pas que la question de l'élection particulière sous la Ve République. Il y a également un choix politique qu'il a fait dès l'entre-deux-tours, c'est-à-dire de dire, qui m'aime me suive. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout voulu organiser une union nationale autour de lui avec les différentes sensibilités politiques, y compris celles qui pouvaient soutenir son programme. Et d'ailleurs, qui me l'a confié, c'est un des hommes qui aurait pu être Premier ministre, c'est Xavier Bertrand, qui a été sollicité à l'époque, qui a refusé, et puis ils ne l'ont pas choisi, mais il a refusé sur deux points, notamment parce qu'il considérait que sur les questions de sécurité, Macron n'était pas suffisamment sérieux. Et sur la question politique centrale, il considérait, il m'a fait le constat suivant, que Macron n'était pas dans l'idée d'une union nationale, mais était dans une lecture bonapartiste, verticale, césariste. C'est-à-dire moi et la population. Et c'est tout.
Est-ce qu'on peut pas aussi relativiser quand même la responsabilité d'Emmanuel Macron quand on regarde le sort qui a été celui de ses prédécesseurs, c'est-à-dire François Hollande qui se retrouve lui aussi quand même fortement détesté, Nicolas Sarkozy, n'en parlons pas. Aussi reproché à Jacques Chirac en 2002 justement de ne pas faire un gouvernement d'union nationale après sa victoire face à Jean-Marie Le Pen. Est-ce que ce sont pas aussi les institutions qu'Emmanuel Macron n'est pas aussi un peu, on va dire, prisonnier de ces institutions?
C'est pour ça que aujourd'hui, à droite, gauche, y compris macronienne ou autre, ou fortement d'opposition, tout le monde fait le constat qu'on aboutit à une crise de régime. La Ve République, dans sa verticalité, est incapable de répondre aux enjeux aujourd'hui européens et même vis-à-vis de la globalisation.
C'était d'ailleurs l'objet de la discussion hier soir entre deux constitutionnalistes, Dominique Rousseau et Anne Levade. Anne Fulda, est-ce que la légitimité aujourd'hui d'Emmanuel Macron, alors vous avez évoqué sa légitimité par rapport à son score relativement modeste, mais c'était pas la première fois non plus, mais au premier tour de l'élection présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, cette impopularité dont il fait l'objet, ça atteint sa légitimité et sa capacité à gouverner pour le reste du quinquennat, qui ne fait que commencer, il faut quand même le rappeler, hein, ça fait que 18 mois qu'il est en poste.
C'est sûr que c'est une évidence que ça atteint sa légitimité, mais cette légitimité, elle ne peut être renforcée qu'à travers, enfin renforcée ou encore affaiblie, ou par de nouvelles élections, à moins que d'ici là, on recourt à une dissolution de l'Assemblée nationale ou quelque chose de cet ordre-là.
Et vous, justement, vous êtes intéressé à ces personnalités. Imaginons, dissolution de l'Assemblée nationale, étant donné l'éclatement du champ politique aujourd'hui, pourrait peut-être penser qu'il n'y aurait peut-être pas forcément de majorité, mais qu'en tout cas, lui, en tant que président de la République, il devrait renoncer à une partie de son pouvoir. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous semble prêt à accepter de renoncer à une partie du pouvoir?
Ça serait dans le cas où il perdrait la dissolution. Vous voulez dire où ça serait une expérimentation hasardeuse, comme on avait dit en 97, et qu'effectivement, ça se retournerait contre lui et qu'il n'aurait plus la majorité. Ouais. Effectivement, ça me semble difficile. Parce que ce qui est difficile, je pense qu'il faut prendre en compte dans la construction psychologique d'Emmanuel Macron, c'est que c'est quelqu'un qui finalement n'a jamais rencontré vraiment d'échec dans sa vie. Si ce n'est celui anormal. C'est un échec qui a compté pour lui, c'est une cicatrice.
C'est pas l'échec qui est anormal, c'est un échec anormal.
L'école normale supérieure.
Trois échecs consécutifs.
Et c'est quelque chose qui l'a marqué. Néanmoins, en dehors de cet épisode, c'est vrai qu'il a eu une ascension assez rectiligne, même s'il y a eu une espèce de storytelling sur son histoire personnelle qu'il a greffé un peu à son histoire politique, c'est-à-dire comment il nous a expliqué qu'il avait conquis l'amour de sa femme malgré les regards de travers, toutes les remontrances et les critiques de la bourgeoisie d'Amiens. C'est vrai qu'il s'est pas vraiment frotté à ce qu'on appelle le principe de réalité, quoi, jusqu'alors. C'est un pur enfant du système qui, par son travail, c'est vrai que c'est par son travail, il a grimpé les échelons par son travail et son sens extrêmement développé de la séduction, qui est arrivé sans encombre jusqu'à maintenant jusqu'au sommet. Donc là, c'est vrai que psychologiquement, ça doit être compliqué, parce que contrairement aux hommes politiques qu'on a eus auparavant, les présidents qui se sont succédés, les présidents de la Ve, pour la plupart, ils avaient connu quand même des revers électoraux. D'abord, ils avaient connu des campagnes électorales. Lui, il n'a jamais fait de campagne électorale. Enfin, ou une avortée. Il n'a jamais fait de vraie campagne électorale. Donc, il n'a jamais eu de vrais revers électoraux. Donc, c'est important.
Vous avez parlé de conquête. La conquête m'a fait ce que je suis. La conquête seule peut me maintenir. C'est pas du Emmanuel Macron. Mais ça, c'est du Napoléon, Jean-Dominique Mercier.
Napoléon, bien sûr. Vous savez, ces personnages, ils ne peuvent vivre que dans la dynamique. Comme ils n'ont pas une légitimité, soit parlementaire, voilà, j'ai une grosse majorité parlementaire, soit monarchique, parce qu'on est les héritiers des 43 qui ont fait la France. Et donc ces gens-là, qui sont des aventuriers de la politique, ne peuvent marcher. Leur pouvoir ne tient que sur toujours un peu plus loin, sur une dynamique très très forte. Vous interrogez sur ça, est-ce qu'il a encore une légitimité? En termes constitutionnels, évidemment. Mais ce qu'il n'a plus, c'est de dynamique. Sa dynamique est brisée, là, par le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, faute de dynamique, qu'est-ce qu'il peut devenir? C'est-à-dire, voilà. Et ça, honnêtement, ce soir, personne, et lui non plus, n'a la réponse. La phrase que vous donniez de Napoléon Bonaparte était très juste. On voit bien que la dynamique de Napoléon Bonaparte était tout à fait différente. C'est une dynamique de guerre, lui. C'était l'affrontement, la conquête. Et lui, il ne pouvait pas renoncer. Parce que s'il renonçait, son pouvoir s'effondrait. Toute sa légitimité reposait sur cette dynamique. Là, sa dynamique, c'était les réformes, on va dire. Le changement, l'adaptation à la globalisation, la modernisation de la société, appelons ça comme on voudra. Mais là, depuis, il y a un coup d'arrêt qui est sans doute un coup d'arrêt définitif. Et il peut peut-être repartir, mais s'il repart, ce sera dans une autre direction, avec d'autres gens, certainement avec un autre Premier ministre, mais pour l'instant, on n'en sait rien.
Marc Andevel.
Tout à l'heure, on parlait des différences de vocabulaire d'Emmanuel Macron. Il faut savoir que ces différences de vocabulaire, y compris dans les expressions parfois extrêmement méprisantes, extrêmement directes qu'il a pu avoir ces derniers mois, en réalité, il faut les intégrer dans un projet politique qui n'est pas n'importe lequel, et dans une stratégie, qui est celui de la stratégie du choc. Le projet politique d'Emmanuel Macron, il me l'a confié très tôt, en 2015, c'est détruire le modèle social français datant de 1945.
Il vous l'a dit comme ça.
Il a dit, je n'aime pas le modèle social, ce terme de modèle social. Et donc, il n'a pas su apporter, en termes de réponse politique, un nouveau modèle social. Mais parce que, je pense que c'est sa principale faute. Sa priorité des priorités, c'était la question de ce qu'il pensait être l'efficacité économique. Finalement, faire venir les grandes multinationales et les grands multimilliardaires de la globalisation sur le territoire français. Et sauf que en ayant ça comme seule priorité, il a totalement évacué la question sociale où on l'entendait dans ce pays depuis le 19e siècle. Or, ce pays est profondément marqué par un désir d'égalité et de fraternité. C'est quand même les deux termes de notre devise républicaine. Et Emmanuel Macron a évacué ça constamment, y compris dans son rapport à l'histoire, parce que donc on a pas mal parlé d'histoire. Dans son rapport à l'histoire, il y a moi quelque chose qui m'a frappé très tôt, c'est qu'il ne fait jamais de référence à la Révolution française. Et il ne fait jamais de référence également à mai 68. D'ailleurs, sa proximité avec Ricoeur, sur le plan philosophique, est assez intéressante. Ricoeur a jamais aimé mai 68. Il était prof à Nanterre à l'époque. Il y a l'épisode de la poubelle, les étudiants qui ont foutu la poubelle sur le mandarin. Et Ricoeur était contre le conflit. Sauf que ce pays a été aussi fabriqué et est aussi le résultat des conflits sociaux. Et dans la manière dont ces conflits sociaux ont été résolus d'un point de vue politique et profondément politique. Et c'est là où Emmanuel Macron ne fait pas de politique au sens noble du terme, au sens français du terme.
Dans votre livre, Anne Fulda, vous terminez le dernier chapitre, alors non pas en utilisant des références historiques, mais plutôt cartoonesques. Vous dites quand est-ce que Emmanuel Macron va passer de Mowgli, l'enfant sauvage, au roi babar. Est-ce que le roi babar aujourd'hui est un peu, comment dire, en passe d'être détrôné, ou en tout cas en forte difficulté? Et ça voulait dire quoi d'ailleurs, le roi babar?
En fait, non, c'était dire qu'il y a une part d'enfant roi chez lui qui est toujours là. C'est assez étonnant. C'est quelqu'un. Enfin, j'en ai parlé avec lui pendant quand même. Lui disait, en fait, je suis passé directement de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. Et à cause de son histoire d'amour, qu'il est passé directement. Donc, comme ça, gommant d'un seul coup tout ce qui avait été l'adolescence, qui participe à la construction d'un homme. Donc, on a à l'arrivée une espèce de vieil enfant, en fait. Il y a quelque chose, c'est un personnage psychologiquement assez étonnant, assez étrange. Et quand je disais, oui, l'enfant sauvage, enfin, c'est l'un de ses proches qui l'avait observé, qui me donnait cette phrase. C'est effectivement, est-ce que finalement il pourra arriver à une vraie maturité? Pas qu'intellectuel, en fait, c'est ça que je voulais dire.
Si vous deviez les uns et les autres faire une mise à jour ou une nouvelle mise à jour de vos ouvrages, est-ce que vous garderiez le même titre, Jean-Dominique Mercher, Macron Bonaparte?
Alors, ce serait un... Le bonapartisme, oui, le bonapartisme, oui, c'est ce qui lui a permis d'arriver au pouvoir et de l'exercer jusqu'à présent. Mais comme on peut dire, c'est sans doute un bonapartisme sans Napoléon, c'est-à-dire sans quelqu'un qui est capable. C'est un bonapartisme sans Bonaparte en quelque sorte. Donc le personnage s'avère un peu vide par rapport à ce qu'était son illustre prédécesseur.
Donc Macron Bonapartiste sans Bonaparte, ça sera le titre lors de la mise à jour. Est-ce que c'est toujours quelqu'un d'ambigu aujourd'hui, Monsieur Macron, pour reprendre le titre de votre livre, Marc Andevelde?
Ambigu dans la ruse politique, tel son maître Machiavel, sauf que ce qu'il a oublié, c'est que Machiavel n'était pas que le théoricien de la ruse, mais était le théoricien de la souveraineté, et donc de la légitimité populaire des gouvernants.
Et un jeune homme si parfait, Anne Fulda.
Parce qu'il y avait
quelque chose d'ironie.
Donc effectivement, il a en apparence tout ce qu'il faut. Il coche toutes les cases, mais c'est vrai que, et comme président, il a, il y a malgré tout quelques failles.
Voilà, c'était une façon aussi de redonner les titres de vos ouvrages respectifs. Merci beaucoup Anne Fulda, Jean-Dominique Mercher et Marc Andevelde d'avoir participé à cette discussion que vous pourrez retrouver sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richet, Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Peyré Legras avec la prise de son Amine Elmansari. Demain, ce sera... vous allez poser la question à Arnaud Laporte pour la dispute.
Vous vous en souvenez quand même.
Oui,
non,
c'est
vous
vrai.
Étiez parti. Allez-y demain, la question du Grain à Moudre, Hervé.
Ce sera la suite de notre semaine spéciale autour des mouvements des Gilets jaunes. Malaise
semaine
social, est-ce que c'est un problème de management? Ce ne sera pas le management du côté de l'Élysée, mais plutôt du point de vue des entreprises.
Vous avez vos invités ou pas encore?
Si, on a trois invités, voilà, dont je vous donnerai les noms demain,
car
il ne faut pas tout dire le jour
d'accord,
même.
D'accord, on en reparle d'accord demain. Merci beaucoup, Hervé Gardel.